بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui guide nos cœurs et oriente nos cœurs vers sa parole, vers Kalamullah. Dans des périodes aussi difficiles, périodes de confinement, nous en sommes à notre troisième semaine, nos cœurs doivent être liés à notre Seigneur. C'est lui qui a créé cette situation difficile, délicate, grande situation d'épreuve, et l'ouverture viendra de lui uniquement. Nous voyons que les professeurs, les médecins, les scientifiques des cinq continents essaient de trouver un remède, un vaccin à ces créatures microscopiques. Mais personne ne peut trouver la solution. Pour des maladies plus graves comme le choléra, la variole, la peste ou autre, ils ont trouvé. Mais Allah a décrété que cette maladie-là avait un danger qu'il ne pouvait évaluer. Un danger qui présentait un danger qui était sous-estimé et que personne n'avait évalué à sa juste valeur. Et c'est un défi pour l'humanité. Nous voyons que les pays qui sont les plus atteints en ce moment, ce sont les pays les plus riches, les plus développés, avec normalement un système de santé extrêmement performant, contrairement aux pays de ce qu'on appelle en voie de développement. Et Allah Azza wa Jal montre que parfois même des dirigeants, parfois même des médecins, parfois même des gens qui sont censés être des leaders dans les soins ou dans la présentation de projets, ils sont eux-mêmes atteints. Et ils se retrouvent totalement impuissants. Ni une garde nationale, ni un bunker, ni une armure, ni une bulle d'oxygène ou un espace confiné ne pourrait protéger une personne contre la décision d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment une épreuve qui pourrait atteindre n'importe qui à n'importe quel endroit. Et lorsque nous voyons comment ce virus ne connaît aucune frontière, ni aucune limite, et qu'il s'étend à un tel point qu'on peut se demander ça durera jusqu'à quand. Ça nous rappelle quand même certains grands signes de Qiyama, entre autres la libre circulation, si on peut utiliser ce terme, la libre circulation de l'antéchrist Ad-Dajjal, qui va parcourir le monde entier, sans laisser une région, sans laisser un pays, sans laisser un village même, un endroit où il y a des habitants. Dajjal fera une tournée de chaque endroit habité dans ce monde. Comment est-ce qu'il va se déplacer? Par quels moyens? Allah seul le sait. Mais Allah a décrété que la mission de l'antéchrist va couvrir le monde entier, bien sûr, à l'exception des lieux saints. Et nous voyons que ce virus n'a pas laissé le moindre endroit habité par des êtres humains. On pourrait dire 80% des terres habitées sont déjà contaminé par ce virus qui est une grande épreuve pour l'humanité. Donc, ikhwani fillah, akhawati fillah, dans cette troisième semaine de confinement, Allah Azza wa Jal oriente nos cœurs et les personnes qui vont écouter cet audio, et les audios n'importe quel autre savant, quelle que soit la langue parlée, du moment que, dans ces instants, nous consacrons un peu de notre temps pour apprendre la religion, c'est qu'il y a du bien en nous, alhamdoulilah. Nous devons remercier Allah qui a guidé nos cœurs vers cette assemblée ou n'importe quelle autre assemblée de dhikr, de pensée d'Allah Azza wa Jal. Dans des situations telles que nous vivons depuis trois semaines, on parle de confinement, il y a des gens qui se laissent aller à la paresse. Leur rythme de vie, ce sera les repas et je ne sais pas, les courses, c'est-à-dire une vie qui n'apporte rien de spirituel. D'autres personnes, pire encore, vont se laisser aller vers les loisirs. Il y en a qui vont s'abreuver des séries de Netflix à un tel point où ils vont passer leur matinée, les après-midi, leur soirée, et ils vont peut-être finir des saisons, une saison, une journée, alors que c'est pas censé se passer comme ça. Mais si nous trouvons un juste milieu entre le loisir, la détente, entre le fait de venir en aide à sa famille, de cuisiner, essayer, hein, et de faire des choses qui peuvent être profitables et se ressourcer spirituellement, en plus bien sûr des bonnes actions, en plus des prières que nous accomplissons et de notre lecture du Coran, si on peut en plus trouver un peu de temps pour nous, pour notre iman, pour s'enrichir spirituellement, pour apprendre un peu plus de la religion, c'est vraiment une faveur de la part d'Allah. Dans une situation d'épreuve, qu'Allah nous accorde cette faveur, c'est vraiment là un cadeau de notre Seigneur. Et ce n'est pas un exercice simple que, subhanallah, de faire un programme seul. Je n'ai jamais pensé un instant de ma vie que un jour on vivrait une situation où personne n'aurait plus le droit de sortir. On n'aurait même plus le droit d'entrer dans les mosquées. Et si propagation de la religion devait continuer, ça devait être seul par l'intermédiaire des moyens techniques. Allah a décrété que c'est une situation que nous vivons. Et nous devons être encore plus sincères dans nos bonnes œuvres et avoir, par contre, cette conviction que même s'il n'y a aucun être humain qui est présent physiquement, ben, il y a des malaïkas qui sont là, qui viennent et qui assistent aux assemblées religieuses. Et nous demandons à Allah Azzawajal d'accorder à chaque personne qui avait l'habitude de venir à nos programmes de tafsir ou les programmes sur l'étude des noms d'Allah ou sur la mort, ben, ces personnes qui se trouvent confinés chez eux et qui ne peuvent assister au programme parce qu'il y a des circonstances qui les dépassent, donc ce n'est pas de leur propre volonté. Nous demandons à Allah Rabbul Izzah de leur accorder quand même les récompenses du fait d'être présent physiquement dans une assemblée et donc de voir nos péchés pardonnés et nos petits péchés transformés en bonnes actions. Allahumma amin. On avait commencé la semaine dernière le tafsir de Ya Ayyuhal Muzzammil, et on avait vu les circonstances de révélation selon Ibn Kathir, rahimahullah, et selon As-Sa'di. Et ce qui est extrêmement important, c'est de garder l'esprit qu'on a affaire à une sourate makkiya, une sourate qui est révélée à Makkah, et parmi les premières sourates, parce que c'est en rapport avec, selon certains asbab et nuzul, circonstances de révélation, en rapport avec la première révélation et la crainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir rencontré l'ange Jibril alayhi salam, ou selon d'autres narrations, c'était la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu les paroles extrêmement méchantes des Quraysh à son encontre, alors que jusqu'à maintenant, il avait toujours été un homme exemplaire et cité en modèle par les Quraysh. Et donc sa tristesse, et c'est là qu'Allah lui demande de se lever et de prier. Et Allah lui annonce, et c'est le verset que nous avons lu, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah annonce au Prophète sallam que la révélation qu'il va recevoir, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est très lourd, et on va voir le sens de thaqila. Nous sommes donc au deuxième verset qu'on avait un peu commenté la dernière fois. Qumil layla illa qalila. Lève-toi, ô Mohammed, pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Nisfahu aw inqus minhu qalila, sa moitié ou un peu moins. Ibn Kathir, rahimahullah, il relate dans son tafsir qu'avant la révélation des cinq prières quotidiennes qui a eu lieu lors du voyage nocturne, Allah Azzawajal avait rendu obligatoire le qiyamul layl, les prières de la nuit, pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le faisait. Et Allah a délimité le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait passer dans ses prières. Et Ibn Kathir, rahimahullah, à la lumière de ce verset, rappelle La haraja alayka fi dhalik, ô Muhammad, si tu fais un peu moins ou un peu plus, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun problème. Ibn Kathir, rahimahullah, rappelle que ce verset, bien sûr, est applicable à toute époque. Si une personne, mashallah, a le tawfiq de la part d'Allah Azzawajal de prier la nuit, ben, idéalement, c'est d'aller jusqu'à, entre guillemets, on pourrait dire, un maximum de la moitié de la nuit passée en ibadah. Il n'a jamais été demandé à un mu'min, un croyant, de passer plus de la moitié de la nuit ou l'intégralité de la nuit en qiyamul layl. Bien sûr, L'exception, c'est la dernière décade du mois de Ramadan. Et nous implorons notre Seigneur, Nas'alullah al-Azim, Rabbal Arsh al-Azim, Nas'aluhu, Biasma'il Husna, wa Sifatihi al-Ula, Bismihi al-A'zam, alladhi idha su'ila bihi ajab. Nous implorons notre Seigneur pour que, une fois que nous allons entrer dans le mois de Ramadan à la vision du hilal, de la lune, du mois béni, qu'Allah nous délivre totalement de cette maladie. Que la venue du Ramadan, qui est une source de clémence et de rahma pour cette umma, soit également synonyme de la fin de cette épreuve, et que le monde entier, croyants, non-croyants, athées, musulmans, chrétiens, juifs, quelles que soient les religions, monothéistes ou polythéistes, que l'ensemble de cette umma, que l'humanité se trouve, inshallah, délivrée totalement de cette maladie, mais que les hommes fassent preuve d'humilité, que personne n'ose dire que nous avons gagné cette guerre contre le virus, mais que les gens réfléchissent et prennent conscience que nous avons tous été impuissants pendant tout ce temps face à cette situation et que cette maladie est partie comme elle est venue. C'est une décision qui dépasse l'entendement et qui nous dépasse de façon générale. Et que le cœur de chaque être humain finit par s'orienter vers le Créateur. Que cette maladie soit un élément qui nous purifie peut-être de nos péchés, qui règle les conflits, qui ramène un peu plus d'humanisme. Permettez-moi encore une parenthèse, j'avais dit la semaine dernière, même si on est en programme de tafsir et d'études des noms d'Allah, assurément le programme est influencé par la situation que nous vivons. Donc il est normal de multiplier les parenthèses. Nous voyons que c'est une épreuve qui ramène l'homme à un peu plus d'humanisme. On a eu l'occasion dans différents programmes de dire et de déplorer le fait qu'il y ait beaucoup de sans-domicile fixe dans nos villes. On va dire qu'à Saint-Denis de la Réunion, hein, on va dire à l'île de la Réunion, un peu moins quand même, mais en France métropolitaine, si on regarde juste Paris, même en hiver, le nombre de personnes qui n'ont pas de toit et qui dorment dans les rues, c'est effroyable. C'est profondément inhumain. Et on finit par se demander comment est-ce qu'on peut continuer à marcher la tête haute et à prôner un modèle d'humanisme et de civilisation et à regarder le monde et les autres cultures de haut, de très haut, alors que nous avons des personnes qui dorment à même le sol en plein hiver, dans la rue, qui n'ont rien à manger. Et justement, ce virus a apporté, on va dire, un élan d'humanisme. Et je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que tous les sans-domicile fixe ont été relogés par ordre du gouvernement et ils sont logés dans des pensions, des hôtels, et ils ont enfin un endroit où dormir et ils peuvent manger. Et ils sont protégés également des agressions donc extérieures, mais également de ce virus. Ça veut dire qu'en même temps, ce virus nous atteint et nous affecte énormément et nous voyons des scènes vraiment déchirantes et déplorables. Mais en même temps, nous voyons des choses qui se mettent en place et un monde qui respire et un peu de retour de insania, d'humanisme, et Allah est seul, le seul connaisseur de la sagesse de ses décrets et de ses décisions. Donc notre doua, c'était la parenthèse juste avant celle-là, nos doua, c'est que, inshallah, quand nous voyons la lune du mois béni, qu'Allah Rabbul Izzah reprend cette maladie, reprend cette terrible épreuve et que l'humanité s'en retrouve libérée, Inch'Allah, mais ma'al ibra, avec les leçons. Nous ne devons surtout pas être comme l'armée de Pharaon. L'armée de Pharaon, et avec à leur tête, bien sûr, leur chef Pharaon, qui avait reçu des signes de la part d'Allah. Parsalna alayhim al-tufan, wal-jarad, wal-qummal, wal-dafadi'a, wal-dam. Ils ont eu énormément de signes entre les insectes qui les envahissaient, entre l'eau qui devenait rouge, couleur sang, et ainsi de suite. Mais à aucun moment, ils se sont orientés vers Allah Azza wa Jal. Ils ont fait preuve d'orgueil. Qu'Allah nous protège d'être dans une situation où nous avons une conviction sur un vaccin ou sur des hommes qui vont solutionner le problème. Mais que non, plutôt nos cœurs soient orientés vers Allah Azza wa Jal. Et il n'y a aucun mal ensuite à solliciter des intermédiaires, mais réaliser que même si dans 15 jours ou 3 semaines, Allah ouvre le cœur d'une personne ou d'un groupe de scientifique et qui trouve donc le remède, mais que nous soyons convaincus que c'est là une guidée de la part d'Allah Azza wa Jal et c'est une manifestation de sa clémence envers l'humanité. Là où on veut en venir, c'est que cette situation d'épreuve, il y a la maladie, le virus, et il y a le confinement. Cela doit engendrer en nous des changements extrêmement positifs dans notre iman et notre foi et dans notre relation avec notre Seigneur. Que le cœur commence et apprend à se connecter avec Allah Azza wa Jal. Lorsque nous vivons dans un rythme de vie, on va dire, ordinaire, avec le travail là, ouais, maintenant on parle de routine, hein, la routine, les embouteillages, le travail, la queue, quand on fait les courses, ainsi de suite. Maintenant, ces routines-là, on paierait cher pour pouvoir les vivre de nouveau. Hein. Ça, c'est une réalité. On est presque nostalgique de nos routes, de nos routes basculées. Hein. On parle de la route du littoral. On est presque nostalgique des mille et un tournants de la route des plaines et de la montagne lorsque le littoral est fermé. Là, je parle bien sûr de la Réunion. Alors qu'on se plaignait de tout ça avant, maintenant, on donnerait cher pour pouvoir recommencer à circuler du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, quand on vit le rythme ordinaire qui est le nôtre, bon, à La Réunion, on n'a pas le fameux boulot métro et dodo, mais on a quand même le boulot route du littoral et le dodo. C'est-à-dire, notre quotidien, il est tellement asphyxiant, il est tellement rempli, notre journée est tellement remplie que on a du mal à trouver de la place pour la spiritualité en dehors des rituels, en dehors des cinq des piliers que nous accomplissons et entre autres la salat. Tirer du temps pour penser à Allah, méditer, s'en remettre à lui, parler, converser avec Allah, se plaindre auprès de notre Seigneur, se confier à lui, lui confier nos angoisses, nos craintes, mais également nos attentes. Mais dans une situation que nous vivons, et j'espère que c'est la seule fois de toute notre vie que nous allons vivre une telle situation, qu'Allah nous protège des guerres et des conflits et d'une seconde vague de cette épidémie, et qu'aucune autre maladie ne ressurgisse, Inch'Allah, et qu'Allah nous protège nos enfants également. Mais c'est une situation unique et exceptionnelle où où la vie est sur pause, où le temps s'arrête. Et c'est peut-être le moment de poser son sac, de retirer son sac de ses épaules, de le poser, de déposer son portable aussi, de s'asseoir et de réfléchir, méditer, réaliser qui nous sommes réellement, quel est notre parcours, pourquoi nous sommes sur cette terre, combien de temps avons-nous déjà passé de ce dunya et combien de temps il nous reste et quel est l'objectif de ce passage. Mais bien sûr, une réflexion, une méditation qui n'a pas besoin d'aller cogner au port des philosophes. On n'a pas besoin de philosopher sur ça, aucunement. Les versets du Coran nous apportent largement les réponses. « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Nous avons créé ins et djinn uniquement pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Réaliser que là on apporte les réponses à ces questions, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera à la mort. Lorsque nous passons notre temps à investir, à avancer, à essayer de grignoter des parts du marché, à voyager, à aller en tourisme ailleurs, dans différents pays et parfois voyage d'affaires, bref, lorsqu'on a un rythme aussi soutenu, on oublie totalement « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Et le seul moment où on s'en souvient que toute âme goûtera à la mort, c'est lorsqu'on perd un proche et qu'on descend dans une tombe pour l'enterrer. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une mort. Et là, ça nous fait réfléchir, mais malheureusement, l'être humain oublie vite. Au bout de 2-3 jours, nous retournons vers notre quotidien et nous sommes aspirés par le dunya. Mais dans un moment de confinement où tout s'arrête, c'est vraiment le moment de réfléchir à ces questions. Et les autres versets qui apportent réponse à nos questions, donc après Kullu nafsin dha'iqatul maut, c'est également le verset qui nous rappelle Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, qui nous rappelle que nous devons adorer notre Seigneur jusqu'à, ça c'est le sens du verset, jusqu'à ce qu'Allah envoie l'ange de la mort reprendre notre ruh, notre âme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un mois de Ramadan qui est un mois de ferveur durant toute l'année ou un hajj où on va faire le maximum de bonnes œuvres en 15 jours ou 20 jours, aucunement. C'est une vie dédiée à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et c'est dans ces moments que nous devons essayer de réaliser que nous avons un parcours et qu'à l'issue de ce parcours, le jour des comptes, nous verrons ceux qui ont réussi leur parcours de ceux qui se sont trompés. Allah Rabbul Izzah nous révèle inna sa'yakum la shatta, que le sens du verset, que vos parcours sont différents. Il y en a qui vont faire preuve de piété dans ce monde et choisir le droit chemin et les bonnes œuvres. D'autres vont choisir le chemin du dunya, réunir le maximum de mata'a al-hayat ad-dunya, de plaisir de ce monde, et orienter leur vie en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. Et le jour de Qiyama, ces deux chemins mèneront vers des destinations différentes. Entre ceux qui seront ressuscités, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, qu'Allah nous accorde cet honneur que d'être ressuscités avec les prophètes, avec les pieux, et ceux qui seront ressuscités avec ceux qui ont vécu pour le dunya, c'est maintenant, et c'est dans ces moments certainement, que nous devons méditer sur l'orientation que nous donnons à notre vie et quel sens nous sommes en train de donner à notre existence. Et les 10 dernières années de ma vie, comment est-ce que je les ai passées? Est-ce que c'était des années, des jours, des mois, des instants qui me rapprochaient d'Allah ou qui me rapprochaient uniquement du dunya? C'est peut-être le moment d'y réfléchir. Et donc de se rappeler, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qu'Allah guide nos cœurs dans ces moments difficiles et nous permet de comprendre, et qu'Allah enlève tout ce qui obstrue ce cœur et qui nous empêche de nous connecter avec le divin. Donc, on a revu les différents tafsirs concernant Ya Ayyuhal Muzzammil, comme il l'est illa qalila. Donc, le Prophète lui devait passer au moins la moitié de la nuit, soit un peu plus, soit un peu moins, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Ibn Kathir et d'autres mufassirines parmi les contemporains rappellent que cette religion est une religion facile. Elle est accessible. Allah l'a révélée pour les hommes, pour qu'ils puissent mettre cette religion en pratique sans que la pratique de la religion ne mobilise tout leur temps et toute leur énergie, parce que ce n'est pas là le but. Nous avons notre lien avec notre Seigneur, mais nous ne devons pas non plus oublier notre part de ce dunya. Et un croyant peut pratiquer de façon très correcte, très profonde et très sincère sa religion, tout en ayant une vie dans ce monde totalement épanouie, en ayant un métier parfaitement intégré à la société, être même très profitable, mais en ayant un lien très fort avec notre Seigneur. Et le meilleur moment pour développer ce lien très fort et très sincère avec Allah Azza wa Jal, c'est vraiment ce qu'Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qum il-layla illa qalila, c'est qiyamul layl, la prière de la nuit. En journée, je peux être un brillant médecin, chercheur, professeur d'université, psychologue, dentiste, ouvrier, commerçant, quelle que soit mon orientation, quel que soit mon métier, quelle que soit ma mission de ce monde, à l'attention de mes concitoyens, je dois exceller dans ce que je fais. Je dois exceller dans tout ce que j'accomplis et intégrer la sincérité même dans notre travail de ce monde. Le faire correctement parce que c'est un don qu'Allah m'a accordé et le faire en recherchant le contentement divin. Et bien sûr, cette journée passée dans notre travail, bien sûr, ne doit pas nous empêcher d'accomplir la salat de Fajr, de Dhuhr, de Asr, de Maghrib et bien sûr de Isha. Et maintenant, la profondeur de notre spiritualité, cette profondeur, nous devons essayer de la développer durant la nuit parce que c'était le rendez-vous des prophètes et c'est le rendez-vous des pieux. Et nous devons nous efforcer, dans la mesure du possible, de consacrer une partie de notre nuit pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, pour le Qiyamul Layl. Certes, le mois de Ramadan approche à grands pas et nous allons, Inch'Allah, nous investir au maximum dans les bonnes œuvres. Mais peut-être que durant ce mois de Sha'ban, nous devons faire un premier pas et commencer à développer les bonnes actions, à développer plutôt les bonnes habitudes et à mettre en place les bonnes actions, et entre autres la prière de la nuit. Donc même à l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message concernant la prière de la nuit était limité à ce qu'un être humain pouvait supporter, c'est-à-dire ne pas passer toute la nuit en prière, mais une partie de la nuit. Et notre prophète alayhi salatu wa sallam était notre modèle dans le temps passé dans les bonnes œuvres. Et nous nous souvenons de ce hadith qu'on avait étudié il y a quelque temps dans l'étude des noms d'Allah, où Aïcha radiallahu anha s'étonnait de voir le prophète alayhi salat wa salam passer beaucoup de temps dans les prières de la nuit jusqu'à ce que ses pieds portaient le fardeau de longues positions debout et se craquelaient. Et le prophète Ali, elle demandait au prophète d'Allah autant d'efforts alors que ton Seigneur a déjà pardonné tes péchés. Et le prophète sallam a prononcé cette parole qui est mémorable et exceptionnelle. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Et notre prophète était notre qudwa, notre modèle et notre exemple. Donc, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila ay iqra'hu 'ala tamahullin. فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. Ibn Kathir dit que Allah Rabbul Izzah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran dans la prière de la nuit lentement et clairement. Car Ibn Kathir dit que une lecture lente et claire permet aux croyants de comprendre et à tadabbur de méditer sur la profondeur des versets. Et As-Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, il dit ورتل القرآن ترتيلا يقول رحمه الله فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر. C'est lorsqu'on lit le Coran lentement, de façon posée et intelligente, c'est là qu'on arrive à méditer et à réfléchir sur la profondeur des versets. Et là, c'est là que les cœurs vont se montrer sensibles à chaque verset. C'est là et uniquement là que le cœur va commencer à trembler et à frémir lorsqu'il entend les versets du Coran. Et c'est là que nous allons ressentir ce sentiment qui est exceptionnel, le lien de ta'abbud, le lien d'adoration envers Allah Azza wa Jal. Que nos cœurs vibrent à l'écoute et à la lecture du Coran et que notre corps tout entier ressent la puissance des versets et que nous comprenons lorsque nous lisons les versets que nous sommes les adorateurs d'Allah, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là que le corps, après avoir écouté, après s'être imprégné de la profondeur et de la puissance des versets, et avoir ressenti que nous appartenons à Allah, nous sommes ses serviteurs, ce corps est maintenant prêt à accomplir son adoration toute la journée et à s'éloigner totalement des interdits et du haram. Et on va clôturer, on a dépassé le temps qui était prévu, et on avait un petit peu expliqué la dernière fois comment est-ce qu'on se concentre dans la lecture de la sourate Al-Fatiha. Et je le rappelle que lorsque nous lisons dans notre prière de la nuit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, réalisez que toutes les louanges reviennent à Dieu, à Allah et uniquement à Allah. C'est uniquement envers lui que nous devons montrer une reconnaissance totale. C'est uniquement auprès de lui que nous cherchons de l'aide et nous demandons tout ce qui nous est important parce que toutes les louanges lui reviennent. Le fait que nous pouvons respirer, que nous avons la foi, la santé et tous ces bienfaits, ben les louanges, alhamdulillah, reviennent à Allah. Donc, quand je dis alhamdulillahi, je dois ressentir un sentiment de choc, de reconnaissance totale qui envahit mon corps et qui me fait prendre conscience que tout ce que j'ai, je le dois à mon Seigneur et à Allah uniquement. Et quand je lis Rabbil Alamin, je ressens la puissance d'Allah Rabb, c'est le pourvoyeur de Al-Alamin. Le mot Rabb, pourvoyeur, ça me permet de réaliser encore que nous devons tous les bienfaits, nous les devons à notre Seigneur, parce que c'est lui le pourvoyeur. Et le mot Rabb en arabe, c'est une connotation différente de Ilah. Le Ilah, c'est celui qui est adoré. Mais le Rabb, c'est bien sûr celui qui est adoré, mais c'est celui qui accorde tout, qui te donne tout ce que tu as et tout ce dont tu as besoin pour vivre. Et donc, dans Alhamdulillah, il y a la reconnaissance qui émerge de notre cœur. Dans le mot Rabb, il y a également la reconnaissance que c'est Allah qui nous a tout accordé. Et Al-Alamin, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah, réaliser qu'Allah, c'est lui qui contrôle tout. Le monde, tout ce qui existe, que nous voyons, que nous ne voyons pas, sont dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand je lis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est avec reconnaissance et humilité. Et c'est comme si que nous devons nous écraser, baisser la tête, devant ce Seigneur qui est profondément clément, qui est le pourvoyeur de tout ce que nous avons comme bienfait, mais qui est également le Seigneur de monde, le Seigneur des mondes et celui qui contrôle tout. Voilà donc un exemple de plus de la concentration qui doit habiter nos cœurs, que nous devons cultiver, nous devons faire naître de nos cœurs lorsque nous lisons Al-Fatiha dans la prière de la nuit, qu'Allah nous donne le tawfiq, la possibilité de le faire, pardonne nos manquements et nous clôturons cette assemblée par des doigts, qu'Allah Azza wa Jal accorde la santé à toutes les personnes qui sont atteintes par ce virus et par n'importe quelle autre maladie, que les personnes qui sont en réanimation, qu'Allah permet à ces personnes de retrouver la santé, que leurs poumons retrouvent leur fonction intégrale et qu'ils ne dépendent plus d'un respirateur ou d'un appareil et qu'ils retrouvent donc, mashallah, la santé, biqudratillahi ta'ala wa 'azamati, et que les personnes qui sont sous assistance respiratoire, qui n'aient plus besoin d'oxygène, d'assistance, qui n'aient plus besoin d'assistance respiratoire, et qu'ils arrivent à respirer d'eux-mêmes, et que les personnes qui souffrent de fièvre, de perte de goût, d'odorat, ou de courbatures, ou de grande fatigue, mais qu'Allah les délivre de tous ces symptômes, et qu'ils retrouvent, Inch'Allah, la santé, et que ceux qui ne sont pas malades, qu'Allah les garde tous sous sa protection, en bonne santé, et qu'Allah éloigne cette maladie de cette umma, et qu'Allah nous accorde la compréhension de sa puissance et de sa grandeur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.